c'est bon pour la santé.
Bonjour, ici Camille Chai et je suis toujours en compagnie de François Barbel. Bonjour François.
Bonjour Camille.
Alors ensemble, à chaque semaine, François et moi, on reçoit des invités en studio qui viennent nous parler soit de leurs livres ou de leur expertise en lien avec la santé. Et cette semaine, on reçoit Manon Cyr, qui est infirmière clinicienne et co-auteure du livre « Fausse couche, vrai deuil » des éditions Caractère. On reçoit aussi Caroline Carré, qui, elle, est intervenante psychosociale et auteure du livre « L'enfant stressé, soutenir ensemble l'enfant de 5 à 12 ans à l'école comme à la maison » des éditions Septembre. On entendra aussi le coup de gueule d'Alexandre Beaupré-Lavallée. Et Elliot Boulat, notre chroniqueur historique, nous en apprendra sur l'enfant à travers l'histoire. Bienvenue à C'est bon pour la santé. Alors, on débute notre émission avec Manon Cyr. Bonjour Manon.
Bonjour Camille. Bienvenue.
Merci
pour l'invitation.
C'est un plaisir. Manon, vous êtes infirmière bachelière spécialisée en deuil périnatal de profession. Et vous exercez votre travail principalement au Centre de santé et services sociaux Vaudreuil-Soulanges, mission CLSC, c'est bien ça?
Oui, maintenant, avec la réforme, les noms d'établissements ont changé. Alors maintenant, c'est le 6 de la Montérégie-Ouest.
Très bien. Et donc, vous donnez sur demande des formations, des conférences ou alors des ateliers?
Oui, en pratique privée, maintenant, je suis plus en soins palliatifs au niveau du 6 de la Montérégie-Ouest, mais au niveau du deuil périnatal, c'est plutôt une pratique en pratique privée maintenant.
OK. Donc, c'est intéressant pour les personnes qui sont intéressées parce que vous venez évidemment nous parler de la fausse couche. Donc, on y arrive. En fait, vous êtes vous-même maman de deux beaux garçons, donc Nicolas et Mathieu.
Oui.
Et vous avez vécu déjà deux grossesses ectopiques et une fausse couche il y a plus de 10 ans.
Ah, oh mon Dieu, oui. Il y a plus de 25 ans.
Bon, voilà. Donc, ça remonte. Mais on est content de vous avoir parce que vous allez pouvoir nous partager votre histoire. J'imagine que c'est pas un hasard que vous ayez écrit le livre Fausse couche, vrai deuil, qui est des éditions Caractère, que vous avez coécrit avec Isabelle Clément. Isabelle Clément, qui est scénariste, qui a travaillé dans le milieu des communications. D'ailleurs, il y a aussi un reportage ou un documentaire qui a été fait en lien avec votre livre, c'est bien ça?
Dans le fond, c'est le documentaire qui est venu avant le livre. C'était Isabelle Clément, justement, était recherchiste pour ce documentaire-là et elle m'avait approchée là, pour l'aider à trouver des parents qui avaient vécu des fausses couches pour monter le documentaire. Qui avait été diffusé à ce moment-là, je me souviens plus sur quel...
Canal Vie,
Canal Vie,
autres,
oui, je pense. Ouais. Et puis, c'est une éditrice de la maison Caractère qui a vu le reportage, dans le fond, le documentaire, et qui, voyant qu'il n'y avait pas de livre spécifique sur la fausse couche, a dit « faut faire un livre ». Donc, elle a approché Isabelle Clément et... Comme notre collaboration avait bien été au niveau du documentaire, ben Isabelle me dit « Moi, je veux l'écrire avec toi. »
Mais c'est magnifique. Puis justement, on parle de ce livre-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, personnellement, votre contribution personnelle à ce livre? Qu'est-ce qui vous habitait pour faire ce projet-là?
Ben au départ, je me disais « Bon, je ne suis pas écrivaine, je ne suis pas... Bon, oui, j'écris, mais j'avais pas l'âme d'une auteure, vraiment. » par contre, dans ma pratique, je trouvais que les gens, il manquait beaucoup d'informations sur les fausses couches, plus particulièrement sur le fausses couches. Le deuil périnatal, il y en avait quand même beaucoup, mais les fausses couches, les gens ont souvent, c'est plus banalisé, c'est plus laissé de côté. Alors, quand Isabelle m'a parlé du livre, j'ai fait comme, OK, je vais le faire pour donner de l'information aux gens, pour pas qu'ils se sentent seuls, pour qu'on débanalise un peu là, la situation.
Il y avait aussi une espèce de tabou à l'époque.
Tout à fait. Mais il y en a encore.
Il y en a encore.
Oui,
hein, c'est ça.
Oui. En 2019.
On en parle à mi-mot et on n'en parle pas vraiment.
Tout à fait.
On baisse le ton quand on en parle.
Mais pourquoi est-ce que c'est tabou au final?
Ben pourquoi? Parce que la mort fait peur. Parce que la mort d'un bébé, ça ne devrait pas exister. On ne veut pas... s'apercevoir que ça existe encore en 2019, alors que les statistiques le prouvent, hein, c'est une grossesse sur quatre qui ne se termine pas par un bébé en santé. Alors, c'est quelque chose qu'on ne veut pas vraiment...
divulguer?
Pas nécessairement divulguer, mais on a peur, ça fait peur aux gens. Surtout les couples qui attendent un bébé, ils veulent pas entendre ça.
Mais non, parce que c'est sacré de donner la vie. Donc quand la grossesse se transforme en cette drôle d'expérience ou même cette désagréable expérience, puis je pense que les mots sont faibles.
Hein. Oui, tout à fait. C'est une épreuve.
C'est une épreuve. Mais donc, est-ce que tout le monde vit cette épreuve à peu près de la même façon ou ça diffère?
Ça diffère beaucoup. Chaque deuil est différent. Par contre, pour les grossesses, on l'a précisé dans notre livre, puis je pense que c'est important aussi de le dire, c'est pas tous les gens qui vont vivre une fausse couche qui vont vivre un deuil associé. Mm-hmm. C'est vraiment différent. Pour les fausses couches, pour les décès qui arrivent un petit peu plus tard, la majorité vont vivre un deuil. Par contre, pour les fausses...
À quelle date?
Ben, quand on parle de fausse couche, c'est sûr que il y a les fausses couches précoces qu'on appelle, qui arrivent dans les trois premiers mois. Mmh. Il y a les fausses couches tardives que souvent les parents n'aiment pas qu'on dise fausses couches tardives parce que fausse couche est un terme qui diminue un petit peu.
Péjoratif.
Qui prouve déjà l'attachement.
C'est ça. Alors, puis l'expérience est différente aussi. Une fausse couche tardive, on accouche du bébé. Hein?
C'est un accouchement prématuré.
Oui, tout à fait. Donc, les contractions, le travail, l'accouchement, tout ça, ce qu'on vit un petit peu moins avec la fausse couche précoce. Alors, les fausses couches tardives vont aller jusqu'à 20 semaines de grossesse dans le jargon médical. Mm-hmm. Par contre, quand on accompagne un parent, moi, je parle plus de fausse couche à partir de 3 mois. Là.
Ouais.
Pour pas les blesser. C'est sensible pour ces parents.
Est-ce que c'est tous les... j'ai envie de dire, les spécialistes de la santé ou les intervenants, est-ce que tout le monde est assez sensibilisé parce que vous parlez du jargon? Vous-même, vous dites que vous faites attention aux mots que vous employez.
Tout à fait.
Est-ce que tout le monde a cette conscience et cette sensibilité?
Malheureusement pas. Même dans le domaine médical, les infirmières, les médecins vont parler, vont même des fois dire un avortement spontané, alors que pour une fausse couche, alors que pour les parents, c'est pas un avortement. Ça, c'est vécu vraiment comme c'est une perte qu'on n'a aucun contrôle, alors que dans notre imaginaire, un avortement, c'est quelque chose qu'on veut, effectivement. Ouais. Ben, qu'on veut. En tout cas...
Oui, ou le contraire, selon comment
qu'on
on
décide.
Le prend,
oui. Théoriquement, qu'on décide, oui, c'est ça. D'ailleurs, ça s'appelle une interruption involontaire de grossesse.
Tout à fait. Mais c'est ça. Donc, déjà, les médecins, des fois, ils vont parler d'un avortement spontané. Ouais. Donc, ça irrite un peu les parents.
C'est dur.
Oui, tout à fait. Les médecins, les infirmières vont parler de fœtus, d'embryon. Alors que pour les parents, c'est un bébé qu'ils sont en train de perdre. C'est pas la même chose. C'est pas un amas de cellules. C'est pas un fœtus ou un embryon. C'est leur bébé.
Oui, bien sûr. Mais comment... Donc, on parle de fausse couche. Comment va se manifester la fausse couche? Comment est-ce qu'elle se déclenche? C'est quoi les premiers symptômes?
Ben, c'est souvent les saignements qui arrivent en premier. Donc, les saignements, les contractions, les maux de ventre, là, on va consulter pour voir. Et c'est souvent... confirmé par une échographie là, à ce moment-là que le cœur fœtal n'est plus fonctionnel là, à ce moment-là.
Et ça, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est dans les premières 20 semaines, grosso modo.
Grosso modo, oui. Mais c'est ça. Ouais. Les saignements sont un des premiers signes là, qui arrivent. Ou des fois, il y a des femmes qui, c'est pas leur première grossesse, qui connaissent c'est quoi les symptômes d'une grossesse. Mmh. Donc, des douleurs au sein... les nausées, alors quand il y a une diminution aussi, il peut y avoir une diminution de ces symptômes-là qui met la puce à l'oreille aux femmes à ce moment-là.
Mais donc, c'est normal qu'une femme enceinte ait des douleurs au sein, c'est normal qu'une femme ait des nausées, ça c'est les symptômes typiques d'une grossesse. Donc là, vous dites si ça... Plus ou moins?
Ben, c'est une sensibilité plutôt. pas des douleurs,
ah, voilà,
une sensibilité,
voilà.
Du
ouais,
sein.
Une sensibilité. Mais c'est pas tout le monde non plus qui le vit de la même façon. Il y a des femmes qui sont enceintes qui n'ont aucun symptôme. Puis la fatigue aussi. Mais quand ils ont beaucoup de symptômes, quand on a une diminution de ces symptômes-là, ben des fois, il y en a qui se posent des questions un petit peu puis qui vont aller consulter un petit peu plus tôt.
Évidemment, il ne faut pas se... À partir du moment où on se pose quelques questions, c'est bien d'aller consulter tout de suite. On ne reste pas tout seul avec ce questionnement.
Ben, c'est mieux de se faire rassurer, oui, effectivement.
Et ça, est-ce qu'on peut le faire? Donc, soit on prend rendez-vous avec notre médecin.
Avec le gynécologue.
Le gynécologue. Est-ce que c'est possible, par exemple, on entend souvent parler d'InfoSanté. Est-ce que c'est fiable aussi pour ce genre de questions?
Tout à fait.
InfoSanté qui est
oui, le 811.
OK. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui appellent à ce numéro-là pour partager leurs symptômes par rapport à une fausse couche?
Oui, effectivement, c'est la première ligne. C'est là où on demande aux gens d'appeler en... avant de se présenter à l'urgence ou en clinique médicale, on leur demande. Parce qu'il peut y avoir des saignements aussi en début de grossesse qui sont normaux. Là.
Ah. Oui, mais faut là, faire attention. Tout dépend de l'importance, en fait.
Tout à fait.
C'est d'ailleurs le risque.
Oui. C'est pour ça qu'il faut appeler InfoSanté pour évaluer tous ces symptômes-là. Et après l'évaluation de l'infirmière au bout de la ligne, ben, elle peut la diriger au bon endroit aussi.
Très bien. Ben, écoutez, on peut passer une petite pause et on se retrouve tout de suite après.
苦しい時には
C'est bon pour la santé, l'émission bonne pour la santé. Nous recevons Manon Cyr, qui a écrit le livre « Fausse couche, vrai deuil ». Je voulais vous poser une question qui est, évidemment, ce sont les femmes qui en souffrent le plus apparemment, mais est-ce que les hommes et les femmes le vivent de la même manière, ce deuil?
Non, il y a une grosse différence. Mon Dieu, excusez. Il y a une grosse différence entre le vécu de la femme et de l'homme, surtout pour les pertes précoce, donc pour les fausses couches, on s'aperçoit vraiment que le deuil périnatal qui est vécu en fonction de l'attachement qu'on avait avec le bébé à venir. Mmh. Et nous, les femmes, on s'attache beaucoup plus rapidement hein, quand on fait le test de grossesse, puis même avant, hein, on les voit, moi ce que je dis souvent aux couples que j'accompagne, c'est que on, on, le test de grossesse est positif, puis nous, les femmes, on a déjà planifié les 5 prochaines années, on les voit rentrer à l'école, presque. Hein? On a beaucoup de projets, on a beaucoup de rêves, on a beaucoup
déjà,
de...
Oui, c'est ça, c'est toute une histoire d'espoir et déjà toute une vie qui se crée et qui y arrive.
Dans la tête de la femme, c'est concret beaucoup plus rapidement.
Ouais.
Alors que pour l'homme, l'attachement se développe au cours de la grossesse. Et souvent, ben, tu sais, au début, ce que je leur dis aussi, c'est que, à part le changement hormonal, donc l'humeur un peu plus exécrable de leur conjointe, ils n'ont pas vraiment rien
ça,
de...
Ah, ça, c'est un aveu. Ah, ça fait du bien d'entendre ça.
Alors, il n'y a pas rien de concret comme tel pour l'homme. Mm-hmm. Donc, puis il ne vit pas dans son corps. Hein. Il n'y a pas les changements qui fait que ça devient concret pour lui.
Mm-hmm.
Alors, souvent, c'est à la première échographie qu'on commence à avoir un petit attachement au niveau de l'homme. Les mouvements fœtaux qui arrivent un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard, excusez-moi.
Ça, c'est quand il touche, il met la main sur le ventre.
Oui, c'est ça. Ouais. Quand il commence à sentir le bébé bouger, ah, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Pas juste de mauvaise humeur pour,
pour rien.
Pour rien.
C'est plus une idée.
Exactement. Tout à fait. Et on s'aperçoit que les hommes s'attachent vraiment graduellement au cours de la grossesse, et c'est vraiment à l'accouchement que le déclic se fait vraiment plus.
Mmh.
Où là, ça devient concret, où là, l'homme commence à avoir des projets et tout ça avec l'enfant. Donc, c'est sûr que, comme je vous ai dit, le deuil, il va avec l'attachement qu'on a. Alors, c'est sûr que quand on part en début de grossesse, les hommes... Mais je ne veux pas généraliser non plus. Hein.
Oui, c'est avec tout le respect pour tout le monde. On sait que tout le monde, c'est un vécu qui est différent.
C'est différent, oui. Effectivement. Mais en général, les hommes s'attachent un petit peu moins, ont un peu moins de peine lorsqu'ils perdent un bébé en début de grossesse à cause de ça.
Mais il y a quand même des exceptions.
Il y a des
témoignages d'hommes et de femmes qui ont vécu leur vrai deuil, hein, comme le dit très bien le titre de votre livre.
Oui.
Il y a des témoignages aussi sur la presse plus, où il y a aussi un homme qui disait à quel point il se sentait isolé ou peut-être mal compris
du fait
que lui, il avait le droit quand même de
oui.
vivre son deuil et sa tristesse.
Oui, oui, ils ont le droit au même titre que les autres. Puis c'est juste qu'il faut faire attention où ils sont rendus. Donc, c'est important de demander à la personne comment elle le vit, elle, cette perte-là, ce deuil-là.
Donc, de ne pas prendre pour acquis ou présumer des émotions.
Non, parce qu'il y a des femmes qui ont un côté un peu plus masculin, il y a des hommes qui ont un côté un petit peu plus féminin. Et ça dépend de tous les rêves qu'on avait. Si un homme a un projet d'avoir un enfant depuis qu'il est tout petit, qu'il a eu des années d'infertilité, que c'était difficile, ben il peut le vivre très intensément aussi, même pour une perte de 6 semaines de grossesse. Là. Alors, c'est vraiment du cas par cas.
Oui.
Et il faut vraiment aller chercher comment la personne qu'on a en face de nous le vit et interagir, moduler nos interventions en fonction de ça.
Mais vous parlez des interventions. Dans votre livre, vous dites bien à quel point certaines personnes ont tendance, parce que c'est facile d'en parler quand on n'est pas concerné ou quand on est à l'extérieur, beaucoup de personnes vont un peu relativiser. Donc, les gens vont se faire dire souvent, ben, c'est pas grave, t'auras une autre chance, ou ben, il fallait que ça se passe comme ça, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. C'est peut-être mieux parce que l'enfant aurait peut-être eu des problèmes par la suite. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça fait du bien aux personnes d'entendre ça?
Ah. Pas du tout. C'est des phrases qui sont dites pas de façon intentionnellement blessante, mais qui le sont blessantes, parce que c'est tout ce qui banalise, tout ce qui amoindrit le deuil que la personne est en train de vivre va faire qu'elle va s'isoler là, à un certain moment donné. Elle n'en parlera plus parce que c'est pas ça qu'elle veut entendre. Puis des fois, quand on sait... Puis les gens disent ça à cause du malaise.
Voilà.
C'est ça, en fait.
Le malaise qui fait dire, ah, okay, qu'est-ce que je dirais bien? Et quand on pense dans notre tête rapidement, ben, on entend des phrases toutes faites.
Mm-hmm.
Et ces phrases toutes faites-là ne sont pas adéquates dans la situation.
Mm.
mais c'est un peu le malaise, la fuite, hein, un petit peu.
Tout à fait. En fait, c'est humain, en fait, au final, hein, comme réaction, mais c'est bien d'en être conscient, qu'on soit dans une position ou dans l'autre, en fait, hein, je pense.
Oui, il faut en être conscient, mais quand on, tu sais, quand on a le goût de dire quelque chose, il faudrait y penser un petit peu avant de le dire.
Comme toute chose, surtout comme ça.
Surtout comme ça. Puis quand on ne sait pas quoi dire, on est mieux de dire « je ne sais pas quoi dire ».
Ah, voilà.
« Je suis désolée
mais
pour
ça,
toi ».
Ça, je trouve que ça fait du bien d'entendre ça parce que les gens, on pense que ça ne se dit pas. Et donc, on va malheureusement dire quelque chose qui va être plus désagréable ou qui met mal à l'aise, alors qu'au final, ça se dit « je ne sais pas quoi dire, j'en suis désolée ».
Oui. J'ai pas de mots. J'ai jamais vécu ça. Je sais pas comment tu peux le vivre. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Au lieu de « c'est pas grave, tu vas en avoir d'autres. » Voyons donc. C'est la chose la plus grave qui peut leur arriver présentement. On peut pas leur dire que c'est pas grave.
Il y a une citation donc, que vous avez mise écrite dans votre livre d'un auteur inconnu. Mais la citation vaut la peine d'être partagée. C'est la suivante. Il n'y a pas de pied trop petit pour ne pas laisser une empreinte dans ce monde.
Mm-hmm. C'est très beau, ça.
Oui, c'est très beau. Je pense que toute personne qui a vécu une fausse couche ou qui peut vivre une fausse couche, je pense que ça démontre très bien à quel point hein, ça a beau être tout petit, mais ça a son importance dans le monde.
Oui, tout à fait. Puis souvent, les parents qui ont eu le privilège de pouvoir voir leur petit bébé, s'aperçoivent que ce bébé-là est tout formé, hein. Même si les pieds sont...
Donc, il est important minimes. De le voir, de pouvoir le voir.
Ça aide au processus. Ça aide au processus
pour faire
du deuil, pour faire le deuil. Effectivement, parce que quand on fait le deuil de quelque chose, faut qu'on ait une image mentale de l'objet ou de la personne pour laquelle on se détache. Donc, pour se détacher, il faut s'attacher un petit peu aussi. Donc, il faut voir... Mais en tout cas, ça, c'est... Aussi, il faut respecter le désir des parents. On l'offre tout le temps de pouvoir voir l'enfant, de pouvoir passer du temps avec lui. Mais si les gens ne sont pas prêts, ça peut être plus dommageable que d'autres choses si on les force.
Oui.
Mais il faut quand même... leur offrir à maintes reprises parce qu'ils sont dans un état un petit peu de choc. Hein, tout ce qu'on leur dit, c'est pas assimilé du premier coup. Donc, c'est vraiment...
Les émotions sont tellement présentes que, voilà, la raison
n'était pas... En période de choc, moi, je dis toujours qu'on a les facultés affaiblies par la peine. Hein? Donc, on pense pas de la même façon, on n'a pas la même concentration, on n'a pas la même mémoire. Donc, faut vraiment répéter les informations à maintes reprises pour que les parents puissent les assimiler, là, vraiment.
Puis j'imagine qu'en des cas où des femmes qui accouchent donc ou qui perdent leur enfant, par exemple, à même la toilette, c'est une image qui est forte, mais qui est choquante à la fois. Donc, quand vous parlez de choc ou de traumatisme, j'en doute pas que ça c'est pas moins que ça, là.
Oui, puis le problème, souvent, quand les gens vont à l'urgence, parce que en début de grossesse, il y a des saignements, souvent ils vont se présenter à l'urgence de l'hôpital, il y a... c'est pas des priorités pour le personnel médical, malheureusement. Donc, les gens attendent longtemps dans la salle d'attente avant d'être vus par un médecin, et souvent, ils vont aller à la toilette, puis ils vont perdre le bébé dans la toilette de la salle d'attente de l'urgence.
Aïe! Aïe, aïe, aïe!
Oui. Et ces toilettes-là, je ne sais pas si vous êtes allé dans les hôpitaux, mais souvent, ils vont, j'ai juste le terme anglais, là, mais flusher automatiquement.
Oui, oui.
Et donc, la personne n'a pas le temps de s'apercevoir de rien, le bébé est parti.
Ah,
c'est horrible.
Oui, quelle horreur, j'ai envie de dire.
C'est horrible pour ces parents-là.
Oh là là. Ben écoutez, sur ces mots, on va à une petite pause et on revient par la suite. Oui, on se retrouve. restez des nôtres à l'antenne parce que ce qui suit, en fait, on va entendre le coup de gueule d'Alexandre Beaupré-Lavallée. On va aussi avoir la chronique historique d'Éliott Boulat, évidemment la suite de l'entrevue avec Manon Cyr, et une nouvelle entrevue, celle de Caroline Carré, qui vient nous parler de l'enfant stressé. Restez des nôtres. Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec Camille Chai et François Barbel. Et pour notre dernier moment d'entrevue avec Manon Cyr, Manon qui nous parle de son livre Fausse couche, vrai deuil. Manon, on parlait tout à l'heure de vécu des personnes, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre concrètement quand ils se rendent aux urgences. La fausse couche peut avoir lieu même les toilettes de l'hôpital. Bon, ça, c'est une chose. Donc, oui, ça fait vivre beaucoup de choses, une fausse couche. Mais est-ce que ça peut... Est-ce que c'est parce qu'on fait une fausse couche, il y a des chances qu'on en vive d'autres?
Quand on veut retomber enceinte à nouveau?
Oui.
C'est sûr que si on fait une seule fausse couche, les chances d'en refaire une autre sont les mêmes qu'on avait au début, là. Donc, c'est pas parce qu'on en a fait une qu'on a plus de chances d'en faire une deuxième. C'est... Parce que la majorité des fausses couches, quand on regarde, c'est vraiment des anomalies chromosomiques qu'on appelle, donc une erreur de la nature. Mm-hmm. Donc, c'est pas nécessairement génétique, c'est pas nécessairement un problème physique qui va faire qu'on va répéter les fausses couches. Ça, c'est pour la majorité.
Mais il y a aussi tout de même des choses, des causes qui sont, par exemple, le tabac. Ou l'agitation extrême.
Des facteurs de risque.
Des facteurs de risque.
Alors, quels sont-ils, d'ailleurs?
C'est ça,
oui,
qui font...
C'est quoi les facteurs de risque, en général?
Ben, c'est sûr que il y en a plusieurs, mais je ne sais pas si on va aller là, parce que il y a des facteurs de risque qui vont être là chez plusieurs personnes, puis on s'aperçoit que ça contribue à peut-être... Mais il n'y a pas de cause directe, des facteurs de risque qui... Parce qu'il y a une étude, entre autres, on prend l'anxiété. Mm-hmm. Il y a des gens qui vont dire, bon, ben l'anxiété fait qu'on n'est plus à risque de faire de fausses couches. Mais il y a eu quand même une étude qui a été faite suite aux attentats de New York du 11 septembre qui mesurait le taux de cortisol dans le sang des femmes enceintes.
Oui.
Et ces femmes-là ont accouché quand même, là. Ils n'ont pas eu plus de fausses couches par rapport
D'accord.
à ça. Donc, tu sais, il faut prendre ça quand même.
Moi, je pensais plus, par exemple, au tabac ou à l'agitation de la femme enceinte qui, elle, travaille comme une folle, qui court dans tous les sens. Ou,
on parlait des excréments des chats. Des choses
comme ça.
Mais ça, oui, c'est sûr. Bon, il y a plein de choses, là,
oui.
Mais les excréments de chats, oui, effectivement, c'est qu'il y a une toxine, la toxoplasmose, qui est à l'intérieur des matières fécales des chats. Quand on est enceinte, on ne devrait pas changer la litière d'un chat. Mais
c'est sûr.
Mmh. Mais il y a des situations qui font en sorte qu'on n'a pas le choix. Donc, on met un masque ou...
D'accord.
Bon. Le tabac, ben c'est sûr que ça va diminuer la circulation, la vascularisation au niveau du placenta,
ouais.
Et tout ça. Mais ça peut faire d'un petit bébé. Ça ne veut pas nécessairement dire que la personne va faire une fausse couche. Alors, tu sais...
Non, ça ne veut pas dire, mais c'est un des éléments.
C'est un des éléments.
On a envie de dire, ben, supprimer tous ces éléments-là qui peuvent peut-être contribuer.
Puis en même temps, il y a des gens qui... Puis faut faire attention aussi dans notre discours, parce qu'il y a des gens qui vont avoir tout fait.
Oui.
Parfaitement. Ils avaient pris leur acide folique avant, ils faisaient attention, ils buvaient pas, ils fumaient pas et tout ça, puis ils font une fausse couche. Puis là, il y a des fois dans nos phrases sais, blessante qu'on disait tantôt, il y a des gens qui vont dire, ben, la prochaine fois, tu feras plus attention.
Oui, oui.
Alors, là, la culpabilité arrive. C'est fou, là.
Mais donc, parce qu'on parle de ça, mais oui, fausse couche, donc on parle de la mort d'un enfant, d'un bébé. Mais tout ça, ça fait partie de la vie. Donc, tout est immuable, tout est en mouvement. On ne peut pas arrêter une information précise pour tout le monde. C'est, comme vous avez dit tout à l'heure, du cas par cas.
Oui.
Donc, je pense que c'est important de ne pas partir en peur nécessairement aussi, mais est-ce que c'est correct de se dire que la vie fait son cours, la vie fait bien les choses, ou ça fait ça aussi partie des phrases à double tranchant?
Ça fait partie des phrases. oui, parce que pourquoi moi? Pourquoi j'ai mérité ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Puis souvent, le premier réflexe des femmes qui ont ce sentiment de protection-là quand ils sont enceintes, quand ils perdent le bébé, c'est de ma faute, c'est une culpabilité qui embarque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ils vont tout reviser, tout.
Tout ce qui s'est passé.
Écoute, s'ils sont enfargés dans un cadre de un seuil de porte, ben ils vont aller jusque-là. C'est peut-être le verre que j'ai pris avant de savoir que j'étais enceinte. Faut pas culpabiliser les gens.
Non, ça, c'est important. Puis j'ai envie aussi, il nous reste quelques minutes à peine, je trouve que c'est important de terminer sur un message d'espoir, de présence, parce que la solitude est quelque chose qui peut être beaucoup vécu lors d'une fausse couche. Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui se sentent seules ou qui auraient besoin de consulter ou d'être conseillées? Vous offrez, il y a des ateliers, des rencontres aussi, j'imagine, entre parents?
Oui, il y a des groupes de soutien qui existent un peu partout au Québec. Il y a des associations aussi, comme Parents Orphelins, entre autres, qui viennent en soutien à ces personnes-là. Et peu importe le nombre de semaines de grossesse où on perd le bébé, je pense que c'est important de ne pas banaliser notre peine. Quand on a de la peine, quand on a du chagrin intense, il faut aller vers, en tout cas, trouver notre moyen pour s'en sortir. Pour les femmes, c'est souvent parler. Donc, les groupes de soutien sont très,
bénéfiques
pour les femmes. Les hommes trouvent un petit peu moins leur compte des fois là-dedans parce qu'eux, ils vivent d'une autre façon, hein, un petit peu plus isolés. Ils veulent aller de l'avant. Ils ne veulent pas nécessairement, pour eux, là, entre parenthèses, rebrasser tout ça.
Oui.
Donc, ils vont avoir des stratégies d'adaptation qui sont très différentes des femmes.
Mm-hmm.
Donc, il faut juste aller vers les ressources en fonction de nos besoins. Mais il ne faut pas se gêner de faire appel aux ressources qui sont en place.
Oui, et puis je mentionne aussi, il y a une dame qui, par exemple, à l'île du Prince-Édouard, une artiste qui fabrique des bijoux, donc spécialement conçus pour ceux qui ont vécu une fausse couche, donc quelque chose de très personnalisé. Donc c'est le genre de choses au niveau des rituels ou de la symbolique que les personnes peuvent faire aussi pour mieux vivre leur deuil. Je rappelle aussi que votre livre est disponible en livre audio. Pour ceux que ça peut intéresser, c'est accessible. Sinon, votre livre est vendu en librairie. Mm-hmm. Au coût de?
Une vingtaine de dollars.
Une vingtaine de dollars, très bien.
Peut-être...
19,99.
Oui, peut-être. C'est ça.
Est-ce que j'ai le temps de parler de la journée de sensibilisation des
périnatales? Oui, bien sûr, on va terminer rapidement là-dessus. Oui.
Le 15 octobre de chaque année, mon Dieu, excusez, il y a la journée de sensibilisation des périnatales. Et dans plusieurs régions du Québec, on parlait de rituels tantôt, il y a des cérémonies ou des événements spéciaux qui mettent en lumière ce deuil périnatal-là et comment on peut aider, accompagner ces parents-là. Donc, j'invite, moi, les gens à vraiment participer dans leur région, aux cérémonies ou aux marches.
L'invitation est lancée et entendue. Et je rappelle le titre de votre livre, « Fausse couche, vrai deuil » des éditions Caractère. Merci infiniment, Maman.
Merci vraiment beaucoup.
Merci de votre invitation.
Et on continue, restez des nôtres, parce qu'on continue, je vous annonce, le coup de gueule d'Alexandre Beaupré-Lavallée qui s'intitule « Les hyènes
». Bonjour, je m'appelle Alexandre Beaupré et l'opinion qui suit reflète mes idées et pas nécessairement celle de Canal M, de Vue et Voix, de l'équipe en ondes ou même de mon employeur, tant qu'à être. Tous les lundis, je commente l'actualité en éducation à l'émission Au quotidien. C'est ma spécialité, je suis professeur en administration d'éducation. Mais la chronique d'aujourd'hui se veut plutôt une réponse au besoin de lâcher un coup de gueule après des années d'observation de l'espèce humaine, et surtout de l'espèce humaine lorsqu'elle est confrontée à l'inconnu, à un inconnu, les problèmes de santé mentale. Pour des raisons qui me sont propres, j'ai eu l'occasion de côtoyer des intervenants et des experts et des professionnels provenant de tous les recoins de la santé. Médecine, psychiatrie, médecine d'assurance, soutien psychologique, pharmacie, kinésiologie, ergothérapie, et j'en passe. J'ai assisté le plus souvent impuissant au meilleur et au pire du potentiel humain lorsque confronté à un adversaire si peu familier, celui que l'on ne voit pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui date de 2014. À l'époque, je m'intéressais de près aux questions de santé mentale en éducation et cette histoire m'avait rempli d'une telle colère que je n'avais pas pu la publier sur le blog que je tenais à l'époque. En préparant la chronique d'aujourd'hui, j'ai réalisé que les préoccupations soulevées par cette histoire sont toujours d'actualité en 2019. Autour du 15 novembre 2014, Émilie Marchand, une résidente en médecine à l'hôpital Notre-Dame, s'est enlevée la vie. Le suicide d'Émilie Marchand, âgée de 27 ans, pourrait avoir commencé comme une situation si commune au travail ou dans les études. Une étudiante qui se trouve devant un mur et qui se défonce afin de trouver une solution. Les échecs répétés entraînent un épuisement, puis une dévalorisation de soi, puis des conséquences psychologiques graves, allant du décrochage professionnel à la dépression, diagnostiquée ou non. Le suicide d'Émilie Marchand, dépressive et épuisée, n'est que le dernier événement d'une longue série de tragédies dictées par un système, notamment un système d'éducation, qui se prétend humaniste, mais qui, devant une tradition d'exclusion par l'effort, dérape et considère comme étant normaux des comportements malsains qui sont encouragés pour répondre à cette pression malsaine. Ces comportements, par exemple, ne pas concilier le travail, les études, la famille et la vie personnelle, la subordination à un directeur ou à une autorité, la consommation de psychotropes de performance, un dévouement sans nom pour la quête de connaissances ou l'acceptation tacite de demandes parfois incongrues en termes de qualité de produits rendus. Bref, tous ces comportements sont valorisés à tous les niveaux du marché du travail ou des institutions universitaires, y compris par ses propres collègues. Le suicide d'Émilie Marchand s'inscrit dans le cadre précis d'une résidence en médecine, mais trouve des échos partout dans les études et dans le milieu du travail. Dans le milieu universitaire, on va par exemple parler d'organismes subventionnaires qui, par manque de ressources, vont créer une compétition où l'écart entre la dernière personne financée et la première personne non financée s'explique difficilement et cause plus de questionnements identitaires qu'autre chose. On a des institutions d'enseignement qui récompensent financièrement ceux et celles qui, avec leur comportement malsain, répondent à des attentes démesurées par rapport aux objectifs originaux de la formation, juste pour encourager les étudiants à se dépasser. Je me sens le gros chevron. Des professeurs superviseurs qui vont chercher à répliquer sur leurs étudiants la même pression qu'ils ont subie dans leur jeune temps, sans qu'il y ait de valeur ajoutée au travail produit ou au développement intellectuel. Vous avez des services de soutien dans les institutions, dans le milieu de la santé, dans le milieu du travail, des services de soutien mal alignés sur les besoins actuels, sous-financés, mal pourvus en ressources humaines, qui sont incapables d'endiguer la hausse des problèmes de santé mentale que plusieurs établissements jurent de la bouche vouloir prévenir sans mettre suffisamment d'efforts financiers, humains et organisationnels pour les endiguer. Le suicide d'Émilie Marchand, promise à un bel avenir, nous rappelle que la société évolue en temps réel, mais que les institutions peinent souvent à se remettre en question, à survivre et à s'adapter à certaines réalités qu'elles contribuent elles-mêmes parfois à créer. Son suicide nous rappelle que comme nation et comme être humain, nous ne devons pas retomber au niveau des hyènes et manger nos petits.
J'aimerais ça être votre ami. Mais je sais pas comment on fait pour entrer dans vos vies pour de vrai. J'aimerais ça être votre ami, mais j'ai trop peur de me fendre. Je suis l'enfant scaphandre. J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment ça marche pour être admis à bord de votre arche. J'aimerais ça être votre ami, mais je sais pas comment me vendre. Je suis l'enfant scaphandre. Vous êtes libre et grand dans la lumière. Trouverez mes trésors très ordinaires. Entendrez-vous ma voix qui se brise dans ma visière? Ooh, ooh. J'aimerais ça être votre ami pour gravir les mêmes falaises, prêt à vivre des silences sans malaise. J'aimerais ça être votre ami pour graver des choses vraies, mais j'écris sous la pluie, à la craie. Je sais pas être votre ami, et je n'ai plus qu'à me rendre au pays des enfants scaphandres. Faut passer entre le vent et la poussière, ramer jusqu'à ce que le ciel touche à la mer. Là-bas, paraît qu'on peut s'ouvrir sans manquer d'air.
Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec Camille Chai et François Barvel. Pour vous servir, et nous recevons maintenant Caroline Coiré. Alors, je dis bien Coiré, car ça s'écrit Q-U-A-2-R-E, accent aigu. Pour trouver votre livre, donc, il faut demander celui de Caroline Coiré.
Oui, oui.
Ça s'écrit carré, tout le monde dit carré, mais ça se dit Coiré.
Oui, bonjour.
Et vous avez écrit donc L'enfant stressé, soutenir ensemble l'enfant de 5 à 12 ans à l'école comme à la maison.
Oui, c'est exact.
Aux éditions Septembre. Alors, merci beaucoup d'être venu, de venir nous voir et de venir nous expliquer ce livre. Et avant tout, je me demandais une chose, c'est qui n'a pas été démuni devant le stress de son enfant sans pouvoir ou sans avoir pu l'aider comme on l'aurait voulu? Et on se sent toujours coupable de ne jamais avoir fait assez pour lui ou pour elle, d'ailleurs.
Oui.
Et puis... quel enfant n'a pas eu ces manifestations de stress à côté desquelles nous sommes passés sans rien voir, mais qu'on a compris trop tard?
Oui.
Ouais. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé lourdement, rabrouant parfois un pauvre enfant, coléreux et triste, qui ne demandait en fait qu'une chose, c'était se faire consoler? Tous les parents ont, je crois, cette inquiétude, et puis sont tous prétentieux. Ceux qui ne le sont pas sont soit prétentieux ou chanceux, parce que en fait, tout le monde se l'est posé cette question. Donc voilà, j'aime beaucoup dans votre livre, vous commencez par l'analogie entre le stress, l'anxiété et le vélo.
Mmh. Oui.
Est-ce que vous pouvez raconter ça?
Oui, en fait, c'est un ami à moi, hein, docteur en neurosciences, Joël Monzé, qui fait cette analogie et qui a écrit la préface de mon livre. Il dit le stress est à la vie ce que la vitesse est au vélo. Mmh. Donc il propose toujours, hein, il me dit un jour, Caroline, essaie de tenir sur ton vélo, les deux mains sur les poignets, les pieds sur les pédales, sans pédaler. Combien de temps vas-tu tenir?
Impossible.
Ça dépend si on est dans une pente.
Oui, oh, mais non, le vélo, là, dans notre entrée, là.
À plat.
Ah, d'accord.
À plat, là.
Ah, d'accord.
Sans vitesse. Donc, ça va être une fraction de seconde, une seconde, au mieux deux, là, si on est...
agile.
C'est ça, si on est très agile. Mais sinon, non, on ne peut pas tenir. Donc, pour avancer dans la vie, on a besoin de stress. C'est nécessaire à la vie que d'être un peu stressé. Mais trop de vitesse, on perd le contrôle. Trop de vitesse, on n'arrive pas à s'arrêter à temps devant une embûche, on se retrouve au sol, on est blessé. Donc le stress, c'est exactement ça. On a besoin de stress, mais trop de stress, c'est difficile et ça vient handicaper notre quotidien, voire à nous blesser au quotidien.
Oui.
Et vous êtes vous-même, vous avez écrit ce livre pour quelle raison?
En fait, je suis d'ailleurs moi-même maman de deux enfants, une jeune fille de 4 ans et une autre de 14 mois. Et depuis toujours, je m'intéresse aux enfants, aux adolescents. C'est la clientèle avec laquelle je travaille depuis 10 ans. Et peu importe le milieu dans lequel j'ai eu l'occasion de travailler, que ce soit milieu scolaire, milieu hospitalier, organisme communautaire, que ce soit dans ma propre famille, le stress et l'anxiété, ça revient toujours. Mmh. Toujours. Mmh. Donc, je me suis dit, est-ce que finalement la base n'est pas là? Et plutôt que s'intéresser, on s'intéresse généralement au comportement dérangeant de l'enfant, mais je me dis, en fait, leur comportement, c'est l'expression de leurs besoins. Et parfois, ils le font très maladroitement. Et c'est des comportements dérangeants qui nous dérangent, comme adultes, souvent. Ils ne savent pas faire autrement. Puis je me dis, mais si on retourne à la base, au stress, je crois qu'on est davantage en mesure de l'accompagner puis de répondre vraiment à son besoin. Et ces comportements-là vont s'atténuer avec le temps puis vont développer en eux les ressources pour composer avec les défis de la vie. Donc, l'idée de présenter le stress et l'anxiété, c'est de présenter une base qui est commune à chacun. Donc, je me dis, si chacun, enfant comme adulte, on peut comprendre ce stress-là, voir de quelle façon il module notre vie, on va être davantage en mesure de, d'avancer, hein, avec le meilleur équilibre possible.
Mmh. Le stress bloque l'enfant.
Ben, en fait, tout le monde vit du stress. Pour se lever le matin, on a besoin de stress.
C'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui donne stressé, hors du lit.
On flanderait au lit. Hein? Oui, oui, si oui. On resterait au lit. Oui. Donc, on a besoin d'une dose de stress pour se lever. Mais si le stress est trop grand, qu'on rencontre une pression de l'extérieur ou qu'on se sent pas assez bon ou qu'on perçoit dans notre environnement des menaces au quotidien, qu'on pense que l'examen c'est une menace, la chicane entre les amis, on a peur de pas être accepté d'un groupe, peur de l'image qu'on a nous, bien tout ça, ça vient nous stresser et là, tous nos comportements viennent d'être modulés parce qu'on vient à interpréter des menaces. Puis notre cerveau, il fait pas la distinction entre est-ce que c'est un ours dans la nature qui veut m'attaquer ou est-ce que c'est un examen, ou est-ce que c'est une compétition sportive, ou est-ce que c'est maman, papa qui me réprimandent sur un comportement qui est inadéquat. Donc le cerveau est encore beaucoup trop immature pour faire cette distinction-là et alors surviennent des comportements très défensifs, instinctifs.
En fait, vous dites que le stress, c'est le vélo, hein, c'est la vitesse, c'est la vitesse du vélo.
Oui.
Mais un stress chronique, c'est là que ça peut bloquer un enfant.
Absolument, absolument.
Et l'empêcher de se structurer, finalement.
Oui. Il faut savoir que ça, comme le stress, en fait, quand on a une réponse de stress dans le cerveau, donc on est amené à activer tous nos mécanismes de survie. Donc, dans le bois, pour survivre, j'ai besoin d'être capable d'attaquer ou de fuir ou de m'immobiliser. Un des trois va me permettre de survivre. C'est pour ça qu'on survient encore à ce jour. Mais on vient adopter les mêmes mécanismes de défense devant la feuille d'examen, devant le parent qui nous réprimande, mais l'attaque, c'est l'opposition, la confrontation, l'enfant qui argumente, qui dit non, qui veut pas. La fuite, celui qui ment, celui qui refuse une tâche, celui qui procrastine, qui attend la dernière minute pour se mettre à la tâche. Et puis celui qui s'immobilise, c'est celui qui cesse, qui n'a plus de motivation, plus capable d'avancer, complètement figé. Donc, ces mêmes mécanismes-là surviennent. Et si on est dans le cas d'un stress chronique, bien, le cerveau va fonctionner comme en survie. Et en survie, nous n'avons pas besoin de notre lobe préfrontal. Et c'est dans cette sphère, cette zone du cerveau où je vais être capable d'atteindre, d'être attentif, concentré, de mémoriser, de m'organiser, de planifier. Donc, en contexte scolaire, un petit cerveau qui se croit en contexte de survie, très difficile. C'est très difficile.
Mais Alors, vous dites qu'il y a une part du stress qui est bonne. Donc, certains comportements ou réactions de l'enfant vont être tout à fait corrects, légitimes.
Absolument.
Mais à partir de quand est-ce que le parent peut commencer à se poser des questions, à se dire c'est peut-être trop?
Quand son fonctionnement est altéré. Lorsqu'au quotidien, ça devient difficile d'avancer, que l'enfant vit des embûches dans la sphère sociale, dans la sphère académique, dans la sphère sportive, dans la sphère familiale, quand ça devient difficile de fonctionner, puis qu'on voit une détresse qui est présente chez l'enfant ou chez l'adulte qui l'accompagne, à ce moment-là, on peut se questionner, à savoir de quelle façon on peut maintenant prendre soin de l'enfant pour diminuer cette réponse de stress-là.
Cette détresse, justement, comment est-ce qu'elle se manifeste?
Les symptômes de stress?
Oui.
Oh, de toutes sortes de façons. Hein. D'abord, physiquement. Donc, dans le bois, si on est devant l'ours, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, on va avoir un cœur qui accélère, une respiration qui accélère, beaucoup d'énergie, donc une tension dans les jambes, dans les poignets. Mais tout ça statique sur une chaise, c'est très, très déstabilisant. Donc, cette énergie-là veut sortir. Donc, l'enfant qui gigote sur sa chaise, qui se tortille, qui se relève toujours, qui mange une fesse en dehors de la chaise, bien, ça peut être un symptôme un symptôme de stress. Donc, on le voit aussi dans les comportements. Donc, les réactivités, l'enfant on lui pose une question, comment s'est passée ta journée à l'école, mon chéri? Puis tout de suite, lâchez-moi, vous me posez toujours des questions. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Donc, il est réactif, il perçoit une menace dans notre question. Mais c'est peut-être juste une réactivité qui est due au stress. Donc, le rôle de l'adulte, c'est d'apaiser. D'apaiser avant d'aborder le comportement. Parce que le comportement, c'est un symptôme. C'est sa façon maladroite de s'exprimer, de nous démontrer ce qui se passe dans son corps. Donc, l'adulte, le plus gros travail qu'on a à faire, c'est d'apaiser l'enfant pour voir, une fois qu'il est apaisé, est-ce que ces comportements-là perdurent?
Et comment on l'apaise?
On est présent. On accueille. T'es
le
en colère,
bienveillant,
mon chéri?
En fait.
La bienveillance, exactement. L'enfant qui réagit spontanément. Ah, lâchez-moi avec
c'est
vos
terrible,
questions.
Ça.
Oui,
c'est C'est vraiment exactement ce que des gens de mon âge n'ont pas vécu. vrai, c'est tristesse. Impressionnant. Et on prend les enfants beaucoup pour les adultes aussi. Hein.
Ah oui, des petits adultes.
Ah oui.
Des petits adultes.
Et on les force à se comporter comme des adultes.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est une source de stress phénoménale.
Comme une fois, on dit « sois sage ».
C'est ça.
La sagesse arrive avec le temps lorsque le cerveau est mature. C'est ça qu'on parle de sagesse. Hein? C'est la capacité devant une situation de prendre un pas de recul, d'analyser, de se contenir, de canaliser notre stress. C'est ça la sagesse. Mmh. On demande à un enfant, sois sage mon chéri, sois sage. C'est beaucoup trop tôt, son cerveau n'est pas capable d'être sage.
Oui, on dit sage comme une image, non?
Oui, sage comme une image.
C'est-à-dire qu'il ne bouge plus, donc en même temps, il est complètement fixé, figé.
Oui, oui, oui. Donc on doit être présent. Être présent, chaleureux auprès de lui, accueillir, puis normaliser ce qu'il vit, l'enfant. Je veux dire, tu vis, t'es triste, t'es en colère, c'est normal.
Mais alors que souvent, une réponse de tristesse ou de colère, qu'est-ce que les parents ont l'habitude de dire souvent? On va réprimander le comportement.
Oui.
Donc, c'est dur pour l'enfant de comprendre, oui, mais je continue à dire quoi ou comment je te fais comprendre qu'il se passe quelque chose à l'intérieur.
Oui, c'est ça. Oui, je dis toujours, c'est comme si un adulte est en train de pleurer. On lui dit « Non, non, pleure pas pour ça. » Est-ce qu'il va arrêter de pleurer? Non, mais en plus, il va être en colère. Mais l'enfant, on lui dit « Non, 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 fâche-toi pas pour ça. Non, on pleure pas pour ça. Sois grand. Arrête de faire ton bébé. »
Je pense que dans la construction d'un enfant, justement, on parle de... Je disais que les enfants, on les traite comme des adultes. Oui. Et vous disiez, c'est vrai qu'on leur demande d'être des adultes sages, compréhensifs, intelligents et tout ce qu'on veut, mais alors qu'en fait, ils ont le droit justement de s'ennuyer.
Oui.
Ils ont le droit de ne rien faire,
oui.
Au lieu de les forcer à faire quelque chose et à se comporter encore comme des adultes.
Oui, et leur cerveau a besoin de s'ennuyer.
Mais il a besoin.
Pour développer la créativité, être capable d'accueillir eux-mêmes leurs émotions, en prendre le temps de s'arrêter, c'est très exigeant. Oui. Combien d'adultes aujourd'hui ne peuvent pas s'arrêter parce que lorsqu'ils arrêtent, c'est trop angoissant.
Tout à fait.
C'est le vélo.
C'est le vélo. C'est le vélo. Ils tombent quand ils sont arrêtés. Donc oui.
Est-ce qu'on peut arriver à vivre une enfance sans stress?
Non.
Ah,
non.
Donc, il ne faut pas chercher à l'éviter jusqu'à un certain niveau.
Oui. D'abord, sans stress, on est mort. Donc, on ne veut pas arrêter d'avoir du stress.
D'accord, mais il y a quand même... Oui, quelle est la bonne dose? Parce que...
C'est ça, on recherche la recette parfaite un peu.
Oui, on en discutait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça. Comment est-ce qu'on fait?
Mais en fait, un comme l'autre, hein, autant le parent qui est, qu'on dit un parent hélicoptère, là, qui fait tout à la place de l'enfant, qui le met dans la ouate pour lui éviter de vivre du stress, c'est un problème. Parce qu'une fois en dehors de la maison, il va rencontrer des stresseurs, puis il va devoir composer avec et avoir des ressources. Donc, si on fait à la place d'eux, on ne l'invite pas à développer ses ressources. En contrepartie, si on lui dit « Allez, casse-toi la gueule, c'est comme ça qu'on apprend, tu vas en sortir plus fort », au contraire, il va s'ancrer dans ses mécanismes de défense, d'attaque, de fuite, d'immobilisation, parce que ça va être sa seule façon de survivre. Donc, ça va devenir de plus en plus rigide, ces comportements dérangeants-là. Et il ne saura pas faire autrement. Donc, l'enfant a besoin de présence et de confiance de l'adulte. Je suis près de toi pour prendre soin de toi, mais j'ai confiance que tu es capable d'essayer. Ah. Puis si ça ne fonctionne pas, je suis présent.
Oui, parce que ce qui se passe à l'extérieur, le parent n'a aucune prise là-dessus.
C'est ça. Mais je vais être présent lorsque tu vas revenir.
Magnifique.
On va mettre une pause et on revient dans 5 minutes.
Super.
Écoutez toujours « C'est bon pour la santé » sur les ondes avec Camille Tchaï et François Barvel. Avec vous encore pour la prochaine demi-heure. Et on continue de parler avec Caroline Coiré.
Oui.
Coiré, attention. Coiré. À propos de l'enfant stressé et soutenir l'enfant de 12 à 15 ans.
De 5 à 12 ans.
5 à 12 ans, pardon, de 5 à 12 ans. Je voulais vous poser une question, c'est très médical, c'est à propos des hormones de stress.
Oui.
Alors, on commence par l'adrénaline, puis il y a le cortisol, c'est ça?
Oui, c'est bien ça. Donc, on va sécréter, en fait, en contexte de stress, vous voulez savoir ça, comment fonctionne stress, la libération hormonale. En fait, on va aller sécréter de l'adrénaline qui va nous permettre de nous mobiliser en situation de stress pour aller chercher nos ressources pour attaquer, fuir. Et éventuellement, on va sécréter du cortisol. Et le cortisol, il faut savoir qu'il est dommageable quand il est sécrété en trop grande quantité dans le cerveau. Hein. Donc, oui, c'est deux hormones qui sont naturelles. Ils sont souhaitables, on les veut, mais pas en trop grande quantité.
C'est ça. Il y en a de toute façon, ce qui nous fait lever le matin, c'est peut-être le stress, mais c'est aussi le pic de cortisol.
Oui, 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 c'est ça.
Est-ce que cette sécrétion qui ne génère pas un état d'anxiété chronique quand il y a trop de stress permanent?
Mais effectivement, lorsqu'on sécrète trop de cortisol, on vient à vivre un stress chronique. Et le stress chronique, notre corps, en fait, il est comme toujours à la recherche d'une potentielle menace. Donc, toujours, c'est comme si on doit être toute la journée allumé. Est-ce qu'il y a une menace ici? Est-ce qu'il y en a une
en
autre
mode
là?
Survie.
En mode survie. Donc, cette hyper-vigilance-là, elle est très, très drainante. Donc, on ne va pas se dire, ah, il n'y a pas de menace, d'accord, je me calme. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Je m'excite. Oh non, je me calme. Donc, le cerveau reste toujours en mode hyper allumé,
mais
hyper vigilance.
Cet instinct, est-ce qu'on peut dire que c'est notre instinct animal? Est-ce qu'on parle de ça ou...
Ben, en fait, notre cerveau fonctionne encore comme si on vivait dans la nature, en pleine forêt. Donc, on ne discrimine pas les différents stresseurs. Il ne fait pas une distinction entre lui, c'est un peu plus pire, lui, c'est moins pire. Ouais. Tout menace la survie. Donc, se faire rejeter, avoir une mauvaise note, tout ce qui peut déranger, en fait, le cerveau l'interprète comme une menace à ce moment-là. Donc, tout dépendant de la personne, évidemment. Là, pour chaque personne, c'est différent. Et la façon qu'on est accompagné aussi fait en sorte qu'on perçoive plus ou moins de menaces dans notre environnement.
Mm-hmm.
Mais oui, c'est cette sécrétion de cortisol-là peut amener beaucoup d'anxiété. On va venir à planifier, on va venir à envisager, le petit hamster qui s'excite, là, on anticipe toutes sortes de situations où je pourrais vivre des stresseurs et j'essaie de m'y adapter. Mais alors que dans les faits, il n'y a rien qui se passe. Mmh. Donc, je fonctionne comme si je suis en nature, en danger, alors qu'il n'y a rien qui a bougé dans mon environnement.
Alors, donc, dans cet état, à ce moment-là, d'anxiété, c'est un état où on anticipe une peur raisonnable ou imaginaire.
Exactement. Mmh. C'est la grande distinction entre le stress et l'anxiété. C'est deux choses différentes. Ouais. Le stress, c'est la réponse du corps lorsque je vis une situation qui est menaçante. Donc, le cœur qui s'excite, la respiration qui accélère. Mmh. Donc, mon corps qui se prépare à se défendre. Et l'anxiété, c'est le petit hamster. C'est quand je me mets à prévoir, analyser, me projeter dans des situations qui peuvent être menaçantes pour m'y adapter. Là, on parle d'anxiété à ce moment-là.
Mais la peur, donc on parle de stress, mais est-ce que la peur est utile en soi?
Absolument.
La peur,
c'est une émotion qui est normale.
D'accord.
Et on la veut, la peur. D'accord. Combien d'enfants me disent « je veux arrêter d'avoir peur », mais si tu arrêtes d'avoir peur, tu vas te mettre en danger.
Et comment ils réagissent quand vous leur dites ça?
Ah là, ils rient. Ils
comprennent.
Pour de vrai. Je dis, si tu n'as pas peur, tu vas t'approcher beaucoup trop près du ravin, puis tu risques de glisser puis de tomber.
Ah oh, oui.
La peur te fige, la peur t'arrête. Tout comme toutes les émotions. Hein, la colère, c'est qu'on ne se sent pas respecté. C'est un appel à prendre soin de nous. Mm-hmm. On a besoin de colère. Mm-hmm. Sans colère, on va se faire marcher dessus.
C'est vrai. C'est l'énergie de l'affirmation.
C'est ça. Les émotions sont des indicateurs et on les veut.
Et c'est vrai que la peur, je me souviens d'avoir... quand on passe des examens, on a peur avant l'examen.
Mm-hmm.
Et puis une fois qu'on est dedans, ça y est, on est dedans.
On surfe sur la vague.
Mais la peur avant nous amène à étudier.
Ouais. Ah oui, tout
aussi,
à fait.
Aussi.
Elle nous amène à se dire, ouais, j'ai envie de jouer, mais il faudrait plus que j'étudie. Si on n'avait pas cette peur-là, ça ne dérangerait
pas. Mais alors, qu'est-ce
qui
se passe pour les jeunes qui... Parce qu'on dit qu'on fonctionne sur l'adrénaline, mais ceux qui n'étudient pas, ils vont sécréter beaucoup trop de cortisol. Qu'est-ce qui va se passer?
Mais ça dépend des personnes. Il y a des personnes pour qui étudier est moins nécessaire que d'autres, parce que pour plein de raisons, le processus de mémorisation est fait différemment.
Ouais.
Et puis, ils se sentent prêts à l'examen. Il y en a pour qui ils sont prêts sans avoir nécessairement besoin de réviser. Mais il y en a d'autres que cette part-là devient tellement grande, mais qu'il focus davantage sur le processus d'étudier que sur l'étude en soi.
Mm-hmm.
Donc, il dépense beaucoup plus d'énergie à planifier l'étude, à qu'est-ce qui va arriver si j'ai pas une bonne note, si j'échoue, si...
Au lieu d'étudier.
D'étudier. Oui.
Ah. Et on parle d'anxiété, de peur, de stress.
Oui.
Le Ritalin dans tout ça, qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'on le veut, lui, au même titre que les émotions?
Ben, le Ritalin, en fait, c'est un psychostimulant qui est proposé aux enfants comme aux adultes. En fait, généralement, on l'associe au TDAH, mm-hmm. aux troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mm-hmm. Donc, on voit de plus en plus de jeunes qui sont sous cette médication-là. Donc, on peut parler de Ritalin, mais on parle de Bifantin, de Vivance, voilà. de Concertant, donc des psychostimulants qui sont prescrits lorsqu'on a chez les enfants qui présentent le TDAH ou chez les adultes. Mais il faut faire bien attention parce que le stress et le TDAH vont avoir bien souvent des symptômes très, très similaires. Donc, l'enfant qui est très agité, qui a de la difficulté à se concentrer, difficulté à être attentif, qui mémorise difficilement, n'a pas nécessairement un TDAH. Ça peut être un stress qui n'est pas contrôlé.
Est-ce que l'inverse existe aussi?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Est-ce qu'un enfant qui paraît TDAH peut être stressé tout simplement?
Absolument.
Donc, en fait, c'est très difficile de faire la différence.
Bien, en fait, une bonne évaluation va permettre de distinguer les deux.
Oui.
Mais ce n'est pas vrai qu'en allant dans un bureau avec une liste de symptômes qu'on peut ressortir avec un diagnostic et une médication.
D'accord.
Je ne crois pas à ça, moi. Ouais. Il faut... Hein, ça peut arriver là, que oui, c'est vraiment un TDAH. Je crois au TDAH, d'ailleurs, ce n'est pas une question de croire ou pas.
Mm-hmm.
Mais j'ai accompagné plusieurs enfants pour lesquels, lorsqu'on s'attarde à l'enfant, à ses besoins, qu'on y répond, on diminue le stress, on diminue les symptômes et on voit un enfant qui retrouve un niveau de fonctionnement très, très souhaitable.
Mmh.
Et pour autant, alors on peut parfois dire « Oups, on n'est peut-être pas finalement dans un TDAH. C'est peut-être pas ça. »
Donc maintenant, merci beaucoup. Nous allons pour le moment maintenant retrouver notre ami Elliot Boulat qui vient d'entrer et qui va nous parler de l'enfant à travers l'histoire.
Alors, je ne vais pas tant vous parler de l'enfant à travers l'histoire que la conception de l'enfant à travers l'histoire. Parce que le gros problème de parler de l'enfant à travers l'histoire, c'est que bah, l'enfant, il ne laisse pas de traces, il ne laisse pas de source. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être un vêtement, un jouet, etc. Mais pour parler de l'enfant, de ce qu'il ressent, bah, c'est une habitude en fait extrêmement récente. Je suis parti pour ça de la définition de ce que l'UNICEF pense être souhaitable pour un enfant. Donc l'enfant devrait grandir dans des conditions de bien-être, en famille, dans son propre pays, bénéficier de la liberté de pensée, de croyance, d'expression, pouvoir jouir des moyens et des soins physiques et pédagogiques nécessaires à son développement, avoir du temps libre pour jouer et les activités récréatives, être protégé contre toute forme de violence et d'exploitation, être traité par la justice conformément à son âge dans le cas où il a enfreint la loi. Alors c'est très compliqué à mettre en place tout ça, on s'en rend compte très vite et surtout on se rend compte que c'est en fait un cas de figure qui va être réservé aux pays, on va dire, occidentaux ou développés. Parce qu'il faut se rappeler que dans la majorité des pays aujourd'hui, le travail des enfants est encore présent. L'enfant est indispensable à la survie économique de sa famille. En fait, l'enfant, c'est très difficile d'en avoir une idée assez claire. Quelque chose qui revient vraiment à travers les époques, c'est un âge en fait assez... centrale, qui est l'âge de 7 ans. En fait, l'âge à peu près au moment duquel l'enfant... L'âge de raison, mais parce qu'en fait, c'est le moment où l'enfant a moins besoin de ses parents, peut commencer à s'autonomiser.
Ouais.
Par exemple, dans l'Antiquité, l'enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, reste dans le foyer. Enfin, là, on parle vraiment pour les classes supérieures. Hein. C'est pour les classes populaires, on a beaucoup moins d'informations. Mais par exemple, dans les classes supérieures, dans l'Antiquité grecque, l'enfant reste en famille, généralement garçon ou fille, jusqu'à 7 ans, avec sa mère ou la nourrice, et le père aussi, a un rôle à jouer là-dedans. Après, selon que, par exemple, soit Sparte ou Athènes, la formation va être différente. À Athènes, par exemple, l'enfant va rester dans le foyer, mais va commencer à aller à l'école, à s'éduquer en tant que citoyen, tandis qu'à Sparte, on va le retirer de sa famille et on va les élever tout simplement en communauté pour en faire des bons soldats. Donc les filles sont aussi élevées en communauté pour devenir des épouses spartiates modèles. Et là, on voit quelque chose de très important.
Ça me rappelle une certaine époque, non?
Mais c'est encore un peu différent, parce que c'est pas comme ça dans tout.
Je parle du Troisième Reich.
Voilà. Bah, quand même, ils sont un peu moins idéologiques à Sparte. Un petit peu. Mais c'est vrai, par contre, que le Troisième Reich était fasciné par Sparte. Ça, on l'oublie assez souvent.
D'accord.
Par la culture spartiate, la culture guerrière.
Okay.
Je rappelle, le Troisième Reich, c'est avant tout une culture qui se développe sur une vision fantasmée et tordue de l'Antiquité, notamment grec-romaine, et d'une influence germanique sur tout ça. Mais bon, c'est un autre sujet. En fait, l'enfant, pendant très longtemps, l'enfant n'est qu'un adulte en devenir, avant tout. Il est un être plein d'imperfections, mais malléable, qu'on va en fait peu à peu transformer pour qu'il devienne tout simplement un élément de la société et de la communauté. Par exemple, à Rome, on va mettre un peu plus l'accent sur les enfants, c'est dû tout simplement fait qu'à Rome, il y a la légende de Romulus et Rémus, et donc forcément, l'enfant a une plus grande place dans la vision de la communauté, de ce qu'il allie, mais c'est toujours la même chose. Une fois éduqué, l'enfant va devenir tout simplement un citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'enfance de 0 à 7 ans, Puis après, de 7 ans à 20 ans environ, vous avez la formation du citoyen. Donc, il n'est plus vraiment un enfant. Et ça, ça va continuer au Moyen-Âge, mais différemment. Au Moyen-Âge, pendant un certain temps, les structures d'éducation publique vont s'effondrer. Pareil pour les communautés. Vous n'avez plus de cité démocratique ou de cité républicaine. Je rappelle, Rome n'est pas une démocratie. On ne le répétera jamais assez. C'est une aristocratie. Mais tout simplement, l'enfant, on garde cette...
Rome,
oui, n'est pas une démocratie. Il ne faut pas oublier la République. Ils n'aiment pas la démocratie à Rome. En fait, tout simplement, au Moyen-Âge, l'enfant continue à avoir ce statut de 0 à 7 ans, mais très rapidement aussi, la relation à l'enfant est différente. L'enfant, ça va devenir l'héritier de la lignée familiale chez les nobles et chez les peu capacités et les... Pardon, chez ceux qui ont économiquement des moyens. Alors que, par exemple, on va avoir un focus sur l'abandon, sur le phénomène d'abandon des enfants, qui est assez commun au Moyen-Âge, simplement parce que, avec les difficultés de subsistance, avec une baisse des solidarités liées à des unités de ville ou de vie plus petites, ça devient parfois très difficile d'avoir énormément d'enfants. Et donc, forcément, il y a des phénomènes d'abandon. Soit on les abandonne dans la nature, soit on les abandonne devant des monastères qui vont peut-être s'occuper des enfants s'ils en ont la capacité.
Mais en l'espérant.
On va aussi apparaître parfois des formes de bandes d'enfants, tout simplement, des enfants abandonnés qui ont su se structurer autour d'enfants un peu plus âgés, qui vont recueillir les autres. Et vous avez, dans les campagnes, dans certaines villes, quand on commence à grossir, vous avez des bandes d'enfants.
Aussi, de quel âge ?
Généralement, justement de 7, 15, 16 ans, mais qui peuvent pas accueillir les plus petits.
On a vu ça, hein, on a vu ça au Brésil, hein, ça existe.
Oui, hein, et ça existe, parce que ça a toujours existé, ce sont des réseaux de solidarité qui se mettent en place.
C'est mais c'est beau, parce que naturellement, un enfant plus vieux, hein, quand on dit un enfant en devenir d'être adulte, il va déjà prendre un peu sa responsabilité.
Oui, exactement. En fait, c'est vraiment à l'époque moderne que l'idée d'enfance émerge. Parce que l'enfant, on sait ce que c'est, mais l'enfance, cette idée qu'il y a un âge en fait, réservé au développement, où l'éducation va avoir une importance, mais pour lui-même et pour son développement, c'est quelque chose qui va apparaître notamment à partir du XVIe, mais exploser au XVIIIe siècle. On va penser par exemple à Rousseau, hein, avec son livre « Émile ou de l'éducation ». Bon, ce qu'il faut éviter de préciser, c'est que Rousseau n'a jamais élevé aucun de ses enfants, il les a tous abandonnés, il ne faut pas oublier, mais par contre, c'est vrai qu'il a une vision de ce que doit être vraiment l'enfance. C'est vraiment en fait dans le XIXe siècle qu'on va commencer à se préoccuper du développement de l'éducation et surtout de la fonction des enfants. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans toutes les époques que je viens de vous lister, il y a quelque chose qui revient assez souvent, qui est le jeu. Le jeu est fondamental pour l'enfant. L'enfant a besoin de temps pour jouer, il a besoin de temps aussi.
C'est ce qu'on disait
tout
à l'heure.
Cet âge improductif.
On parlait du moment improductif qui permet de rêver et qui permet de se fabriquer.
Et c'est une tension qui commence à apparaître dans les sociétés industrielles du 19e siècle. Parce que je rappelle, le travail des enfants est très présent à partir de 5-6 ans où ils vont à l'usine.
19e.
19e, oui, dans les
usines. Dans les mines.
Dans les mines, dans les usines. Pourquoi on prend, par exemple, dans les usines de filage et de... On prend des enfants parce qu'ils sont petits, peuvent aller sous les machines et aller remettre le fil qui s'est cassé. Et donc souvent, ils se font écraser les doigts au passage. Il ne faut pas oublier. Mais on va commencer à se rendre compte que l'enfant, en fait, a peut-être besoin d'être un peu plus protégé, un peu plus éduqué. On va repousser le travail des enfants, par exemple, à 12 ans, au bout d'un moment, à partir du milieu du 19e siècle, en France. Ouais. Et c'est là où on va voir apparaître aussi des penseurs, des philosophes, des hommes de lettres qui vont s'intéresser au statut des enfants. On pense notamment à Victor Hugo. Il va écrire Les Misérables. Les Misérables, c'est centré sur l'enfance. Vous avez différents cas d'enfance. Vous avez, vous avez Gavroche, vous avez Cosette, etc. etc. Et en fait, c'est dans le XXe siècle que va prendre en fait, toute cette place de l'enfant. À partir, ça va commencer dans les familles bourgeoises. Les familles bourgeoises devenant de plus en plus nombreuses, on va quand même s'intéresser à ce que veut l'enfant, comment l'éduquer. Les classes populaires aussi, vous commencez à avoir accès à l'éducation. Alors, toujours avec un déséquilibre entre les garçons et les filles, mais quand même, on va se dire qu'il faut quand même éduquer toutes les parties de la population et surtout essayer de plus possible de leur réserver une période où ils vont pouvoir se développer.
Très bien. C'est vraiment... Et alors maintenant, c'est l'enfant qui prend une telle place et on le pousse tellement que justement on le stresse et on le fait jouer un rôle d'adulte.
Voilà.
On ne l'éduque même plus, on lui donne un rôle d'adulte.
Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on lui donne ce rôle d'adulte dans une société où on vit de plus en plus tard aussi.
Oui.
Et donc, quand on est un enfant au Moyen-Âge, quand on va vivre, quand on est dans les classes populaires jusqu'à 40 ans, 50 ans, 60, si tout se passe très 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 bien, c'est différent de vivre que de vivre dans une société où on va mourir à 80 ou 90 ans.
Oui.
Où l'enfant, surtout protégé, pour la plupart dans les pays occidentaux, on le rappelle encore, n'a plus trop de problèmes pour se nourrir. Il se nourrit peut-être mal, mais il n'y a plus de famine, il n'y a plus de disette. L'enfant a au moins un repas par jour. Alors, il en faudrait idéalement trois, on est d'accord. Mais il faut penser qu'il y a des sociétés, même encore assez récemment, et même des sociétés hors de ces sociétés occidentales, où il y a des enfants qui n'ont pas à manger tous les jours, des moments qui n'ont pas de toit, des moments qui n'ont, ils ont des moments pour jouer, mais qui sont extrêmement petits. C'est des moments, généralement, qui sont vus comme des pertes, justement, de productivité. Donc cette apparition, en fait, de l'idée de l'enfant et de l'idée de l'enfance, cette idée qu'il y a un âge, justement, réservé où l'enfant a le droit d'être improductif, a le droit de rêver, a le droit de rien faire, a le droit de se tromper, et même est encouragé à se tromper. C'est quelque chose qu'il faut conserver. Et il ne faut pas essayer peut-être de trop le cadrer, d'en faire justement, de revenir à cette vision que l'enfant n'est qu'un adulte en devenir. Il faut lui empêcher de faire toutes les heures pour que le plus vite possible, il devienne quelqu'un qui est bénéfique à la société. C'est peut-être quelque chose qu'il faut éviter de refaire.
Tout à fait.
Écoute...
Il y a, c'est, ça donne, c'est ma, il y a matière
à
réfléchir.
Voilà. Ça fait réfléchir, en effet. Oui.
Ben, on peut prendre quelques secondes pour justement y réfléchir, le temps d'une petite pause, et on se retrouve après. Alors, on est toujours en compagnie de Caroline Coiré. Et donc, on vient d'entendre la chronique d'Eliott Boulat. On parle des enfants, oui, qui ont cette énergie pour faire plein de choses. Mais aujourd'hui, donc en 2019, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre des jeunes enfants, des jeunes garçons, par exemple, qui, à l'âge de 8 ans, a commencé, ils sont pleins d'énergie pour faire plein de choses? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on veut, évidemment, à l'école, par exemple, leur demander de rester tranquillement assis sur une chaise? Comment on peut, en tant que parent, bien jauger, j'ai envie de dire, leur période de plaisir, de jeu et de concentration?
Oui. En fait, je débuterai en disant qu'on est beaucoup trop sédentaire. Hein. On ne sommes pas faits pour être sédentaires. Nous sommes faits pour bouger. Puis, il n'y a pas si longtemps, les jeunes garçons, dès 8 ans, commençaient, même un peu plus jeunes, commençaient leur entraînement pour devenir des petits guerriers. Donc, toute la journée, ils étaient à l'extérieur à s'entraîner, à combattre, à accompagner leur père, leur oncle. Donc, toute la journée, ils dépensaient de l'énergie. Puis, mais les enfants sont encore des petits guerriers. Ils ont encore cette énergie-là. Mais là, on demande aux petits guerriers de s'asseoir sur une chaise pendant 8 heures de temps sans dire un mot plus fort que l'autre. Donc, de se concentrer. On leur donne deux pauses de 15 minutes.
Oui.
Là, on s'excite parce qu'on a rajouté un 20 minutes de pause. C'est bien, c'est génial, mais c'est pas seulement ça. Donc, au quotidien, les enfants devraient être dehors 5 à 6 heures par jour. Dehors. Ils devraient bouger au moins une heure par jour. Mm-hmm. Vraiment, une grosse activité physique, une heure par jour. C'est pas ça le cas du tout.
Oui, on est loin du cas, là. On est loin de ce cas-là.
Oui, la dernière statistique proposait qu'au Canada, seulement 35 % des enfants de 5 à 17 ans rencontrent les recommandations de base en matière d'activité sportive.
Ah oui.
Et les recommandations, c'est une heure par jour d'activité intensité moyenne.
Oui.
Donc, d'aller faire du vélo, d'aller jouer dans la rue à la balle. Et trois fois par semaine, 30 minutes, avec intensité élevée. D'aller courir dans une pente, de jouer, être essoufflé, là, pas capable de parler. Là. C'est pas énorme.
Non.
Mais seulement 35 %.
Mais si on va à l'extrême, à l'inverse, on entend souvent des cas de familles qui ont plusieurs enfants, ou même un seul enfant, mais qui, dès qu'ils rentrent à la maison de l'école, il a des activités jusqu'à l'heure du coucher. Et ça, plusieurs jours par semaine. Mmh. Est-ce que c'est mieux?
Non, c'est ça, c'est pas mieux, c'est de trouver un juste équilibre. Parce que même si on dit, OK, ils sont trop sédentaires, je vais les inscrire dans 4 sports différents.
C'est ça.
Et chacun a un sport, à un moment donné, ça devient tellement, ça brûle tellement d'énergie de s'organiser, de ne pas avoir le temps de se déposer, d'accueillir leurs émotions, de se reposer physiquement aussi, qu'on fait l'effet contraire. Donc, on les oblige. Et surtout, le plaisir est à considérer. Si mon enfant fait du hockey 4 fois par semaine, dans l'obligation, pas dans le plaisir, ça n'a pas le même impact du tout.
Et cette hyperactivité, c'est absolument pas anti-stress.
Non.
C'est au contraire très stressant.
Oui, mais en fait, le jeune va bouger, par exemple, sur sa chaise pour compenser, pour libérer son stress, pour lui permettre de rester attentif. Quand il grouille sur la chaise, il est en train de mettre en place une stratégie pour être plus attentif. Mais nous, on lui dit, arrête de bouger, reste statique sur ta chaise. Donc, il met tellement d'énergie à arrêter de bouger qu'il n'est plus disponible pour l'apprentissage. Donc, il faut qu'ils bougent au quotidien pour libérer cette énergie-là.
Et on les voit de moins en moins bouger puisqu'ils sont devant les écrans. C'est très compliqué. Mais comment est-ce qu'on fait avec les écrans?
On n'en achète pas.
C'est compliqué. Mais ça, c'est facile à dire.
C'est vrai, c'est facile à dire. Mais en même temps, c'est un choix qu'on fait. Il y a des parents qui me disent « Ah, mon enfant fait des crises et des crises devant la tablette. Enlever la tablette. Ah ben non, il va faire des crises si je l'enlève. »
Et voilà, c'est un cercle vicieux.
C'est ça, non.
Est-ce que vos filles ont des tablettes?
Non, absolument pas. Elles n'ont pas le droit de toucher à mon téléphone, aucune tablette dans la maison, aucun ordinateur, un temps limité de télévision.
Et des jeux et de l'activité.
Pas de jeux. Je les laisse jouer, je les laisse, s'occuper. On s'est départi d'énormément de jouets. On dit, il y a trop de jouets, ils ne savent plus quoi faire. Donc, on a enlevé des jouets et maintenant, ils jouent avec des rouleaux de papier de toilette, un bâton ramassé dans la cour. On sort à l'extérieur. On regarde des fourmis et on ramasse du sable.
Comme faisait Cosette pour se faire une poupée avec un bout de bois.
Oui.
Dans Les Misérables. Et qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs alors aux prises avec un enfant stressé et un peu agressif?
D'abord, de prendre soin de soi comme adulte.
Ouais.
Première des choses. L'adulte est le pont qui permet à l'enfant de passer de l'enfance à la vie adulte, à l'adolescence à la vie adulte.
Ouais.
Si le pont est fragile, l'enfant ne va pas s'aventurer. Il n'est pas stupide.
Ouais.
Si moi, j'ai à passer sur un pont entre deux falaises, un pont avec des cordes et des planches, et qu'il manque des planches et la corde est usée, je vais prendre le pont et je vais le balancer d'un bord et de l'autre pour être sûr qu'il solide.
Résiste, ouais.
Mais l'enfant fait ça avec le parent fragile. Il veut être sûr qu'il soit assez solide. Donc, prendre soin de nous comme adultes, c'est la première des choses pour que l'enfant se sente en sécurité. Et un enfant qui se sent en sécurité vit beaucoup moins de stress. Donc, il est moins symptomatique. Donc, ça serait la première chose.
Ouais. Et vous avez parlé aussi de, on va très très vite, ciné.
Juste en
une minute, c'est possible.
Oui, en fait, c'est le Centre d'études sur le stress humain a découvert qu'il y a 4 sources de stress universelles dans le monde. On l'appelle le CINÉ, l'acronyme le CINÉ. Lorsque je suis en perte de contrôle, que je vis de l'imprévisibilité, de la nouveauté ou que mon ego est menacé, que je ne suis pas certaine d'être capable d'avoir les ressources pour faire face à la situation, je produis du cortisol, je sécrète du cortisol. Donc, et plus il y a d'éléments associés à une situation, plus je suis stressée. Et je n'ai même pas besoin d'être dans la situation. Si j'anticipe une nouveauté, je commence à sécréter du cortisol, je commence à être stressée. Donc, si on peut agir consciemment sur ces 4 composantes-là, on peut reprendre davantage de contrôle et être moins stressé. Ouais.
C'est très rapidement expliqué, mais... c'est vrai. Mais bon, j'espère qu'on va bien qu'on va pouvoir le mettre en pratique, tout le monde va le mettre en pratique, ça.
Oui.
Ouais. Je vous conseille vraiment de lire ce livre, L'enfant stressé, édité chez Septembre, qui est un livre, on va pas dire intéressant parce que ça veut rien dire, c'est vraiment un livre qui nous donne vraiment les tenants et les aboutissants du stress. C'est vraiment l'explication de la cause du stress et ensuite c'est comment le traiter ce stress. Merci beaucoup Caroline Coiré.
Merci à vous de l'invitation.
Merci
et
beaucoup.
On se souhaite du bon stress.
Oui.
Et pas trop.
Oui, merci.
Alors, maintenant, c'est le billet de Camille qu'on attend tous, hein, bien entendu, comme d'habitude. Et Camille, tu m'as parlé tout à l'heure, justement, de l'entente, de l'écoute. Et tu m'as parlé d'une enfant.
Oui.
Raconte-moi.
Je vous partage un moment très simple, mais très beau, et j'ai envie d'un peu d'inverser les rôles. On parle, pour le mentionner à nos auditeurs, Caroline est toujours avec nous en studio, et Elliot aussi, donc je vous invite à prendre la parole si ça vous dit. Mais en fait, on parle donc de l'enfant, oui, qui va écouter son parent, et j'ai envie d'inverser les rôles, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une cour d'enfants l'été dernier. Et le fait qu'il me manque un bras gauche et une jambe gauche, ben, ça attire beaucoup le regard des enfants. Et il y a une jeune fille qui est venue vers moi. Et elle m'a tout de suite, de façon vraiment spontanée, elle m'a demandé, elle dit, « Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? » Elle dit, « Pauvre toi, je suis désolée que tu sois comme ça. » Et moi, tout de suite, je lui ai répondu, je dis, « Mais t'inquiète pas. » Je dis, « Je suis très bien dans ma peau, je peux faire plein de choses. » Je lui ai raconté toutes les activités que je pouvais faire dans ma vie, tout ça. Et c'est une des rares fois, puis même je vous dis ça, c'est des adultes hein, qui peuvent aussi arriver, me poser ou avoir ce même type de réaction. C'est une des rares fois où cette jeune fille, sa réaction a été la suivante. Elle m'a tout simplement répondu, oh, elle dit, ben je suis contente pour toi de savoir que tu es bien, que tu es bien dans ta peau. Mais à quel point cet enfant est arrivé avec son empathie, sa sensibilité, et elle a pu entendre au final qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter pour moi, et c'était vraiment vrai. Honnête, sa réaction, j'ai trouvé ça magnifique. Parfois, même pour des adultes, comme je vous disais, c'est difficile pour eux d'assimiler quand même le fait que je leur dis « Je suis quand même bien dans ma peau et ma vie est quand même belle, même avec un bras et une jambe en moins. » Et ça m'a vraiment émue, cette réaction de cette petite fille. Je trouve que ça prouve très bien l'intelligence d'un enfant et la compréhension.
Mais on n'a pas besoin de le dire quand on te voit, puisque ça se voit et on le goûte.
Oh, ben j'adore, c'est beau comme explication. Mais écoutez, ça passe tellement vite, l'émission, c'est bon pour la santé, parce que quand c'est bon pour nous, on ne voit pas le temps passer. Alors écoutez, je remercie toute l'équipe de l'émission, Jean-Sébastien Laliberté, Mathieu, Catherine Bourderon, Alexandre Beaupré-Lavallée, Elliot Boulat. Merci François d'être toujours à mes côtés. Merci à vous tous, merci Caroline, merci Manon Cyr, et merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours au rendez-vous avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même poste pour un autre épisode de
C'est bon pour la santé.